c'est-à-dire la manière dont on a mis les nazis au pouvoir, on les a placés là. Ces libéraux autoritaires qui, soutenus par le patronat, enfin les différents patronats qui, entre 30 et l'automne 32, se sont convertis à la solution nazie, avant que l'armée embraye le pas le 3 février 33 et que l'Église catholique embraye le pas également entre la mi-mars et la fin mars 33, ça m'a permis de mieux comprendre ce qui se passait dans mon pays et que je regardais avec effarement depuis quelques années. Là, j'ai vu, oui, les analogies sont là, puisque on peut qualifier très clairement un extrême centre avec ses idées politiques et sociales qui ne sont pas les plus philanthropes, les plus axés sur la justice sociale et fiscale, on va dire. Sa conception de la démocratie qui est très tempérée. En gros, ça joue, comme disent les Suisses, si je gagne, mais si je gagne pas, ça joue plus. Hein, je nomme Michel Barnier. Bon. Lequel extrême centre, par logique idéologique et sociologique, ils ont la même clientèle, etc., dérive vers l'extrême droite et s'allie avec l'extrême droite. Encore une fois, j'ai commencé à travailler sur ce livre-là lorsque Mme Le Pen a salué une victoire idéologique grâce au vote de M. Attal et de son groupe pour la loi immigration. C'était un fait politique qui me semblait digne de, comment dire, d'examen, si vous voulez. Donc j'ai pu dire à mon entourage, qui encore une fois s'inquiétait de me voir plongé dans le journal de Goebbels et dans les discours du ministre von Geil ou de Franz von Papen, que ça m'apaisait, ça me faisait du bien de comprendre. Un. Deuxièmement, motif d'espoir. mais oui, mais il y en a plein. Mais je suis plein d'espoir. Hein. Cet après-midi, j'ai pris une grosse claque. Hein. Par contre, j'avoue, avec ce qui s'est passé à l'Assemblée, bon. Mais les motifs d'espoir, ils sont multiples. Nous sommes beaucoup plus aiguisés intellectuellement et culturellement que forcément nos aïeux. Nous savons, enfin nous sommes censés savoir, il faudrait peut-être envoyer un télégramme à l'Élysée, à Matignon et au ministère de l'Intérieur, mais nous sommes censés savoir que l'extrême droite, ce n'est pas une bonne idée. Que, par ailleurs, récupérer, comme vient de faire le PS cet après-midi, tous les thèmes et les thèses de l'extrême droite en disant, comme le SPD en 1933, nous on est gentils, on est la gauche sympa, nous ne sommes pas des communistes. Que fait le PS cet après-midi, hein, en pointant la responsabilité de l'EFI, etc. C'est jamais une bonne idée, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. On pense sauver sa peau, on ne la sauve pas, et on termine dans la même casserole que les autres, casserole dont on a alimenté le feu. C'est une très mauvaise idée. Bon, donc ça fait partie des, si vous voulez, des petits enseignements de la séquence 32-33. Moi, je me souviens que le 17 mai 1933, le SPD a voté au Reichstag une motion de confiance à Hitler, hein, quand même. Ça va jusque-là. Là aussi, il y a des raisons idéologiques et sociologiques à certaines pentes qui me semblent inquiétantes. Mais pour les motifs d'espoir, un, nous sommes censés être informés. Nous sommes censés savoir que ce n'est pas une bonne idée de reprendre les thèmes, les thèses, les images, les obsessions de l'extrême droite. Nous sommes censés savoir que laisser se développer un gigantesque empire médiatique, animé par un milliardaire d'extrême droite, lui-même animé par une volonté de régénérescence nationale. Alors, je parle d'Alfred Hugenberg, hein, auquel je consacre le chapitre 3 de mon livre. Laisser se développer ça et faire comme l'ARCOM, c'est-à-dire aller tailler ses roses pendant que Pascal Praud est en roue libre, ce n'est pas une bonne idée. Il y a des leçons d'histoire, etc. Par ailleurs, autre enseignement qui est rassérénant, dans les années 30, personne ne se plaignait, ni en France ni en Allemagne d'ailleurs, des juges rouges. Ça n'existait pas. Aucune personnage d'extrême droite d'aller glapir sur les plateaux en hurlant à l'assassinat parce qu'elle avait été condamnée pour des raisons assez évidentes en accusant le marxisme des juges, parce que les juges étaient loin d'être marxistes à l'époque. Bon. Rappelons que en 1940, sur les un peu plus de 5000 magistrats français, un seul a refusé de prêter serment au maréchal Pétain, chef de l'État français. Aujourd'hui, je pense qu'il y en aurait un peu plus. Idem pour la haute fonction publique. Idem pour la fonction publique. Des choses toutes simples. Le principal du collège où est scolarisée ma fille. Collège de quartier. En juin 2024, au moment où tout le monde annonçait la victoire inéluctable parce que c'est comme les nazis, gagnent tout, etc., etc., donc fatalité, invitation au fatalisme, etc., n'allez même pas voter, hein, ça sert à rien, eh bien, ce cadre de base de la fonction publique, soumis au devoir de réserve, soumis aux principes hiérarchiques, signe avec une quantité de collègues fonctionnaires de l'éducation nationale un appel à la désobéissance civile si l'extrême droite gagne. Écoutez, ça, moi, je tire mon chapeau. Hein. Parce que quand des gens viennent me dire « Oh, vous êtes courageux », non, j'ai aucun courage, moi. Hein. Je suis protégé encore par mon statut. Mais et si moi, je ne prends pas la parole, qui va le faire? Par contre, un principal de collège qui fait ça, alors là, respect. Eh bien, ça n'existait pas dans les années 30. Ça existe maintenant. Instruit par, etc. L'autre leçon, et ça me semble, j'en reviens à ce que je disais au début, c'est que le paradigme de la fatalité, le 30 janvier, c'était inévitable, c'est tout le contraire, c'est un paradigme de contingence historique, et que la leçon qu'il y a derrière tout ça, c'est la leçon inverse des plateaux télé. Vous allez sur n'importe quel plateau, vous avez des bavasseurs incompétents qui vont vous dire que les nazis ont gagné les élections, qu'ils n'ont jamais gagné, qu'Hitler a été élu, il n'a jamais été élu à aucun mandat, etc., etc. Derrière tout ça, vous avez deux idées. Une, suffrage universel, c'est un peu problématique. Donc, le réduire, ce n'est pas problématique par définition. Hein ? Par ailleurs, qui a voté Hitler ? Bah, les ouvriers, les chômeurs. Ça, c'est H24 hein, sur les plateaux. Eh bien, je cite des études de métadonnées, des synthèses de toutes les études socio-électorales qui ont été faites, qui montrent que la corrélation entre le fait d'être ouvrier et ou chômeur et le vote nazi, cette corrélation est négative. Ce qui, en bonne statistique, veut dire que plus vous êtes ouvrier, plus vous êtes chômeur, moins vous votez nazi. Les paramètres de détermination du vote nazi sont tout à fait autres. Autrement dit, le mythe du rouge-brun est un mythe. Et le mythe de l'adhésion populaire, des gueux, des gilets jaunes, des je ne sais pas quoi, au fascisme, est un mythe. La leçon derrière tout ça, et je le répète, les Allemands n'ont pas voulu ça. Ils n'ont pas voté pour ça. Et les 6 premiers mois de 1933, je suis en plein dedans, montrent de manière répétée que les nazis font l'objet d'un rejet. Le boycott antisémite du 1er avril est un échec terrible pour la SA, pour le parti nazi, pour Josef Goebbels. Les élections professionnelles d'avril 1933, dernier moment de la démocratie sociale fondée le 15 novembre 1918 par les accords Stinnes-Legien, ces élections professionnelles sont une catastrophe pour les nazis. Le syndicat nazi, en avril 1933, fait 11,7%. Moi, je veux bien que ce soit un raz-de-marée, comment dire, une fatalité tectonique, mais il faut vraiment qu'on me l'explique plus sérieusement. Donc les Allemands n'ont pas voulu ça, les populations ne veulent pas ça. Et comme en 22 en Italie, en 32-33, pour franchir ce plafond de verre socio-électoral qui situe en gros entre 30 et 40%, l'extrême droite ne va jamais au-delà, il faut une décision de quelqu'un d'autre que la population par son vote, en l'occurrence des élites patrimoniales, je précise patrimoniales parce que pour moi le terme élite connote l'élitisme, donc un petit peu d'excellence, un peu de travail, un peu, et non pas la force d'inertie sociale qui fait que vous êtes échoué comme ça par héritage. Monsieur Attal, je vois pas où est son mérite quintessentiel, si vous voulez. L'héritage, je vois, mais voilà. Donc élite patrimoniale, élite patrimoniale. Eh bien, il faut une décision de ces élites patrimoniales pour dire c'est le moment de faire alliance avec l'extrême droite.
Je voulais revenir parce que ça m'avait effectivement beaucoup frappé les passages que vous consacrez au pouvoir de Hugenberg, donc au pouvoir de l'information, de la propagande, je crois, il faut le dire. Et effectivement, À l'époque, il n'y avait pas des réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, c'est démultiplié par justement les vecteurs sur les réseaux sociaux. Et donc, je me demande quelles sont les armes de la République. Vous avez mentionné l'empire que Vincent Bolloré est en train de créer et l'influence qu'il exerce. Mais quelles sont les armes, justement, pour les réseaux sociaux, pour la démultiplication de ces messages et de cette infusion, en quelque sorte, de certaines idées?
Pour les réseaux sociaux, je ne saurais pas vous dire. Pour les médias, il y a quelque chose d'assez banal en République qui s'appelle le droit. Il y a des normes. Le fait que la licence hertzienne ait été renouvelée à CNews, je n'ai toujours pas compris. Alors, si ça, c'est une chaîne d'information, moi, je suis archevêque. Hein. Et je suis sans doute plus archevêque que ce n'est une chaîne d'information. Appliquer le droit, ce serait bien. Voilà. Bon, ça impliquerait aussi des conditions de nomination dans ces autorités administratives dites indépendantes qui soient un petit peu revues. Ça impliquerait aussi que le pouvoir exécutif actuel soit un petit peu plus responsable. Hein. Les irresponsables, on voit où ils sont aujourd'hui. Mais pour ce qui est de Hugenberg, c'est un cas très intéressant parce que Alfred Hugenberg est un peu la matrice de tous les avatars contemporains que nous connaissons. Berlusconi, Murdoch, Bolloré, Sterrin, Kretinsky, etc. Mais il est beaucoup plus intéressant parce qu'il est tout à la fois. C'est un homme politique de premier plan. Il est le chef du DNVP, Deutsche Nationale Volkspartei, en 1928. C'est un haut fonctionnaire, c'est un docteur en économie. Il a fait une thèse sur la colonisation.
Il était chez Thyssen en plus.
Oui. Chez Krupp. En réalité, il a fait une thèse à l'Université de Strasbourg, d'ailleurs, à la Reichsuniversität, sur la colonisation intérieure. C'est un spécialiste de colonisation intérieure agricole. Il s'est investi comme haut fonctionnaire là-dedans. Il a été à la tête du réseau de banques Raiffeisen, hein, qui existe toujours, comme vous le savez, qui est un réseau d'aide à la colonisation agricole à l'époque. Ensuite, il est passé à l'industrie lourde, qu'il a été Vorstand, président du comité directeur de Krupp. Et pendant la Première Guerre mondiale, alors qu'il faisait une campagne ultra-expansionniste pour l'annexion de l'Ukraine, il a créé le comité Freie Ukraine en 1915. Pendant la Première Guerre mondiale, il s'est aperçu que les canons étaient quelque chose d'important, mais que les journaux, c'était mieux. Et donc, il a changé son fusil d'épaule, si je puis dire, et il a créé le Konzern Hugenberg, donc, que je détaille très précisément, avec des sources internes qui montrent comment les choses sont pensées. Hein. Il faut un papier, il faut, comment dire, un journal pour la bonne bourgeoisie, pas trop sale, pas trop. Il faut du gros rouge qui tâche pour le populo. Donc on décline le même message selon des modalités différentes parce que en amont de ça, vous avez une analyse mercatique en termes de segments de population qu'on va viser, auxquels on va s'adresser différemment. Typiquement, c'est en gros le JDD pour le bourgeois du dimanche et CNews pour la grosse cavalerie dégoûtante de la semaine. Et donc on se répartit les rôles. Et c'est le même message, hein, mais on va moduler les choses sociologiquement pour toucher adéquatement les différents segments de population. C'était très intelligent. Ça devait avant tout rapporter de l'argent, parce que Hugenberg est un capitaliste qui veut gagner de l'argent. C'était très bien fait de ce point de vue-là. Et ça aboutit à la maîtrise par Hugenberg de deux compagnies de cinéma, la UFA quand même, hein. La grande compagnie de cinéma qui est rachetée en 27, la DOLI, Deutsche Lichtfilmgesellschaft, qui produit les actualités cinématographiques, hyper important, hein, première partie de séance au cinéma, en possession propre entre 20 et 30 titres d'hebdomadaires, de mensuels, etc. Et par un système d'abonnement auquel vous pouviez abonder si vous vouliez les services des différentes agences Hugenberg, vous pouviez commander des éditos tout prêts, des rubriques toutes prêtes, une rubrique sportive pré-rédigée qui était livrée toutes les nuits par camion et par avion et par train à 1600 journaux. 1600 journaux. Avec ça, vous faites énormément d'argent et vous imposez les thèmes, les thèses, les terreurs de l'extrême droite. En l'occurrence, Hugenberg est quelqu'un qui réfléchit très tôt à l'union des droites. C'est lui qui organise Bad Harzburg, hein, le Harzburger Front en 1931 avec les nazis. Et c'est quelqu'un qui a nazifié l'espace public, extrême droitisé l'espace public en imposant. Alors, dès qu'il y avait un juif qui était impliqué dans une arsouillerie, pouf, ça faisait les gros titres pendant 3 semaines.
Il mettait sous pression l'Église catholique aussi.
Oui, alors le rapport d'Hugenberg à l'Église catholique, oula, c'est un protestant à poil dur, hein, Hugenberg. D'ailleurs, ça va poser problème.
Parce que les catholiques résistaient un peu plus, si j'ai bien compris.
Alors, résister, c'est le mot. Et disons qu'ils ont une résistance au sens de allemand, c'est-à-dire de résistance des matériaux. Hein, c'est... Non, non, mais... Pardon, mais... Là, c'est pas moi qui le dis. Hein. C'est Jan Kershaw, c'est Norbert Frey, qui expliquent très bien la différence entre résistance et Widerstand. Widerstand, ça, c'est les communistes. Résistance, c'est une forme d'imperméabilité, on va dire, socioculturelle au message nazi, parce que les catholiques ont leur propre contre-société, ils ont leur propre parti, ils ont leur propre facho aussi. Parce que l'aile droite du Zentrum et du Bayerische Volkspartei, c'est pas, comment dire, très reluisant, hein, non plus en termes de philanthropie. Donc, ils ont tout ce qu'il faut. Ils n'ont pas besoin de voter nazi. Et par ailleurs, il y a une, c'est vrai, une condamnation du clergé catholique, de l'épiscopat catholique à l'égard des nazis, une réticence de l'électorat catholique qui se trouve en Rhénanie et au sud, typiquement Bavière et Bade, à l'égard des Zeupreuss, hein, de ces cochons de Prussiens, les nazis étant identifiés à la Prusse, identifiés au protestantisme. Donc, effectivement, il y a une... Je traduirais, moi, le terme de résistance par réticence. On ne mange pas de ce pain-là. Ce qui n'a pas empêché, moyennant concordat, vote des pleins pouvoirs, etc., le clergé catholique de se coucher lamentablement en mars 1933.
Je le mentionnais parce que, justement, je me demandais si la matrice catholique qui reste en France, est-ce que c'est aussi... Avant, traditionnellement, on disait la Bretagne ne vote pas RN parce que ça reste le territoire le plus empreint de catholicisme encore, mais je ne sais pas si ça peut encore jouer.
Effectivement, pour la Bretagne, c'était démocratie chrétienne, puis social-démocratie très tempérée. Et là, ça a tendance à changer. C'est intéressant, la question du catholicisme, parce qu'il est très présent en Allemagne, hein, contrairement à ce qu'on croit. C'est quand même 40% de la population à l'époque. Et c'est une église, l'église catholique, très puissante, très riche, et qui a un pouvoir de politique, financier très important. Et c'est ce qui fait que quand les nazis arrivent au pouvoir, il est impératif que ce môle élitaire-là, qui était résistant au sens de la réticence, bascule. Il en reste deux en réalité. Hein. Quand Hitler est nommé chancelier, il y a l'armée. L'armée qui, très prudente, hein, à l'égard des nazis, parce que. Ce qu'on appelle le monopole des armes est quand même disputé par la SA. Ernst Röhm est quelqu'un de bizarre. Donc, et puis sociologiquement, c'est pas leur monde. Voilà. Quand vous appelez Kurt von Hammerstein Eckfort, que vous êtes Freiherr, Hitler, qui est un véritable crétin des Alpes, non, mais c'est comme ça qu'il le voit, hein, vraiment. Qui parle avec un accent du Sud à couper au couteau, ce petit catholique descendu de son Tyrol, là, qui n'a pas de réseau, pas de fortune, pas de titre, pas de grade, qu'est-ce que c'est que ça ? Dans mon prochain livre, 1933, j'ai intitulé un chapitre « Le petit chose ». C'est comme ça qu'il le voit. C'est pas sérieux, Hitler. C'est pas sérieux. Et donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la répugnance sociologique. C'est pas votre monde. Et Hitler, dès le 3 février 1933, en tant que chancelier, il s'incruste de manière très impolie à un anniversaire au ministère de la Reichswehr. Tous les états-majors sont rassemblés. Il leur explique ce qu'il veut faire. Lebensraum im Osten et compagnie. On va passer de 100 000 à 5 millions d'hommes. Les types ont vite fait le calcul, hein, en termes de grade, pour commencer. Hein. Et vous avez des carrières militaires exceptionnelles. Quand vous passez... comme Rommel, de capitaine à maréchal en 8 ans, ça vaut le coup quand même. Non mais, ça compte. Et c'est décisif. Donc ça, l'armée se couche en 4 jours. Et l'Église catholique, ça va prendre un mois et demi. avec comme acteur, je précise, Franz von Papen, toujours le désastreux Papen, qui est à la manœuvre, il est catholique lui-même, hein, il est Westpreuss, hein, il vient de Westphalen, il est très bien réticulé au Vatican, etc. Et son partenaire de négociation pour le Concordat, je vous le donne en mille, s'appelle Eugenio Cardinale Pacelli. À partir de du 11 février 1939, ça sentait le pape Pie XII. C'est hallucinant. C'est-à-dire que en juillet 1933, au bas du Concordat, vous avez le nom de Papen, désastreux entre tous, et le nom de Pacelli. Ah, c'est extraordinaire comme moment historien de lire ça. Vous dites, mais c'est pas possible. C'est toujours les mêmes, en fait.
Alors, avant d'ouvrir le débat au public, il y avait quelque chose qui m'avait fascinée, que j'avais noté. C'est vous écrivez que il faut pas, pour moi, né après le parti nazi, c'est le parti de l'extermination de la Shoah, de l'extermination des Juifs, de cette logique guerrière qui devient une raison d'être et d'extermination. Mais vous dites que en 1932, c'est l'extrême droite la plus cool, en quelque sorte, la plus populaire. C'est votre mot, la plus efficace, qui paraît beaucoup plus attrayant que justement le parti de Hugenberg, et que cette promesse de Freiheit und Brot, c'est-à-dire de liberté et de pain, oui, paraît très moderne. Est-ce que nous, je rajoute une question que je me pose souvent en tant que journaliste. Jusqu'à maintenant, j'ai refusé de faire un entretien avec Marine Le Pen parce que je considérais que j'avais pas le pouvoir, à travers l'information, à travers mes questions, de vraiment donner plus d'informations à l'éclairage de nos lecteurs. Mais maintenant, je sens qu'il y a quand même une curiosité que j'interroge, notamment Jordan Bardella, parce qu'on veut savoir... Alors, est-ce qu'il faut lui poser des questions? Est-ce qu'il faut... C'est quand même aussi une sorte d'anoblissement.
Moi, j'adorerais être Benjamin Duhamel à la matinale. Mais inviter M. Bardella, puisqu'il invite Marion Maréchal Le Pen et d'autres, et on commence à prendre date, hein, évidemment, pour la suite, dans ces milieux-là. Et j'adorerais poser comme première question à M. Bardella, pour savoir ce qu'il pense des Waffen-SS qui ont fondé son parti. Ce serait une bonne idée, ça. Parti fondé par des Waffen-SS de la division Charlemagne, des anciens de l'OS, des anciens miliciens. Voilà une parfaite question à lui poser, il me semble. Bon. Rien que pour ça, ça vaudrait le coup. Vous voyez ? Ce que, manifestement, on ne fait jamais, puisqu'on fait semblant aussi de l'inviter pour son livre, dont on sait très bien qu'il ne l'a pas écrit, parce qu'il est incapable d'aligner trois mots. Mais on fait semblant. Il y a quelque chose de l'ordre de la fiction permanente, en fait, sur les plateaux. J'avoue que, comme disent mes filles, j'hallucine. On invite quelqu'un pour un livre dont tout le monde sait très bien qu'il ne l'a pas écrit. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Posez-lui la question sur les Waffen-SS. Ça, c'est une question intéressante.
La seule fois où on lui a posé la question, si Jean-Marie Le Pen était antisémite, il a dit que non. Et après, il a dû se corriger.
Et oui, il se corrige beaucoup, hein, ce garçon. Il est touchant. C'est pour revenir à ce que vous disiez, c'est absolument fondamental, puisque quand on est historien, on essaye de faire l'histoire. Ça paraît être une tautologie, mais je vais m'expliquer. La séquence nazie, elle est très courte déjà, et donc il y a un phénomène d'écrasement temporel par cette perspective temporelle qui s'approfondit, on s'éloigne, donc les 12 ans du Troisième Reich ou les 25 ans du nazisme, ça apparaît comme une tête d'épingle. Et donc, on confond tout. Lorsque l'on pense au nazisme de 1932, il est inconséquent et faux méthodologiquement de penser Shoah. Une bibliographie qui remplirait cette pièce entière, qui montre que le processus qui mène de la politique radicalement judéophobe, radicalement antisémite des nazis à la Shoah est un processus gradué et lent, avec des franchissements de seuil dont le dernier est franchi précisément à l'été 1941. Ce que montrent tous les travaux sur la Shoah, c'est que il y a une dynamique de radicalisation cumulative qui est aggravée par la guerre à l'Est. Bon, et puis ensuite, il y a le phénomène de la crise de l'automne 1941, après l'été 1941 et la guerre à l'Est, l'automne 1941 qui précipite les choses. Les nazis de 1932, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont antisémites, mais ils évitent de le dire. Et ça, c'est extraordinaire. Dans les six premiers mois de 1933, là, je ne parle même plus de 1932, de 1933, j'ai fait le travail, pas un mot sur les Juifs dans la bouche d'Hitler. Pas un mot, rien. En privé, oui, mais pas en public. Les nazis ont compris très tôt, dans le cycle électoral qui s'est ouvert avec le plébiscite contre le plan Young à l'été 29, ils ont compris très tôt que le message antisémite, ça fait plaisir, et ça flatte une base radicalisée. Laquelle base radicalisée, typiquement les SA de Franken, de Franconi, autour de Streicher, etc. C'est votre clientèle captive. Ils vont voter pour vous, quoi qu'il en soit. Donc pas besoin d'en rajouter. Par contre, en population générale, comme on dit depuis le Covid, en population générale, l'antisémitisme n'est pas un bon argument de marketing politique. Et j'insiste sur le thème de marketing. Goebbels est un marketeur. Goebbels est un produit de la modernisation économique de l'époque, de la réclame, de la pub. Il pense en segment, en part de marché, à conquérir. L'antisémitisme ne fonctionne pas. Et les nazis s'en sont à nouveau convaincus le 1er avril 1933, avec l'échec mais dramatique de leur boycott des commerçants, des médecins et des avocats juifs. Ça ne marche pas. Donc, ils ont mis une sourdine radicale sur le message antisémite. Je vous assure que ça les démangeait. Hein. Mais le message, c'est la guerre au marxisme. Le slogan nazi de ces années-là, et ça se confirme à l'hiver 33, c'est « Tod dem Marxismus », mort au marxisme. Et dans marxisme, vous avez la social-démocratie, les syndicats, etc. Pas de message antisémite. Régionalement, si, en Franconie, Streicher, pardon, va faire le travail dans Der Stürmer. Mais c'est répulsif pour gagner des parts de marché électorales. Ce qui fait que, j'ai un chapitre dans mon prochain livre sur les Juifs allemands face aux nazis. La réaction au 30 janvier, qu'est-ce que c'est ? Mais c'est Ruhe bewahren. Gardons notre calme. Un, on est en Allemagne. L'Allemagne, c'est le pays qui protège les Juifs historiquement. La Prusse, c'est le refuge pour les Huguenots, pour les Juifs persécutés par les catholiques ici, par les antisémites de l'autre. La Prusse est accueillante. C'est l'endroit où on est en sécurité. Les Allemands sont ceux qui nous protègent historiquement. Le Oberost, pendant la Première Guerre mondiale, a laissé d'excellents souvenirs aux communautés du Yiddishland. Ça allait mieux avec l'occupation allemande pendant la Première Guerre mondiale. Contre les antisémites polonais, contre les pogromistes ukrainiens, contre les assassins baltes. Donc, quand les nazis, déjà dans la configuration que je vous ai montrée, les nazis sont complètement coincés dans ce gouvernement de coalition. Et par ailleurs, ça fait 3 ans qu'ils ne parlent plus des juifs. Ruhe bewahren. Le mot d'ordre du Zentralverein, pardon, der Deutschen Juden, c'est Ruhe bewahren. Ils ont changé. Quand ils étaient jeunes, ils étaient un petit peu nerveux, mais ils ont changé. Ça, c'est très important. Ce qui explique que des juifs ont voté nazis, bien sûr. Parce que ultranationalisme, haine de la gauche, haine du marxisme, racisme et xénophobie envers les Ostjuden, dont on ne veut pas, hein, quand on est Westjuden.
Et probablement aussi, alors je ne veux pas revenir sur le historique, je traite quand même la peur justement du bolchevisme en Union soviétique.
Alors ça c'est certain, il faut voir qu'il y a eu une république soviétique en Bavière. Vous imaginez une république soviétique à Neuilly ou en Vendée, hein, c'est l'équivalent. Ça a pu surprendre les contemporains. Donc ce n'est pas une mince crainte, d'autant plus que ce qui est redouté, C'est effectivement l'existence de l'horreur bolchévique pas très loin. Géographiquement, on est en Allemagne, hein, on n'est pas loin. Et par ailleurs, l'infiltration. La cinquième colonne, elle est là. Il y a des communistes. D'ailleurs, c'est Dolchstoßlegende, les gens du coup de poignard dans le dos, c'est quand même les communistes qui nous ont trahis, qui ont fait que, etc. Et les communistes, c'est qui, quand on gratte un peu? Tous ces internationalistes, là, ces apatrides, ils ont bien une raison pour être apatrides. Ils ne seraient pas un peu juifs, d'ailleurs? C'est le judéo-bolchevisme. Le bolchevisme, le communisme, il est importé en Allemagne par qui? Par les Ostjuden. Donc en se débarrassant des Ostjuden, et tout le monde est d'accord là-dessus, hein, à l'été 32, le ministre von Geil, le ministre de l'Intérieur de von Papen, dit les Ostjuden, on n'en veut plus et on va les foutre dehors. Mais tout le monde est d'accord. Hein. Le Zentralverein, il n'est pas contre. Hein, parce que c'est des immigrés, ils sont sales, ils sont pauvres, ils sont religieux. Hein, et oui, ils amènent la charia, hein, eux aussi. Je veux dire, ils amènent quelque chose de l'ordre de la culture archaïque religieuse. Et ils amènent le bolchevisme. Donc non. C'est quand même intéressant, je trouve, en termes de dynamique contemporaine. Hein.
Alors, je pourrais vous écouter encore longtemps, mais on va quand même... alors, on est très nombreux, donc je vous demande réellement de vous présenter et de poser une véritable question, s'il vous plaît.
Vous m'entendez? Ah, bien, voilà. Je voulais vous interroger par rapport à cette notion d'extrême centre et notamment à sa naissance. Vous avez dit que ça naissait vers Brüning en 1930, c'est ça?
Pardon. La notion, elle date de la fin des années 90. D'accord. Hein, c'est les travaux de Pierre Cerdin. Oui.
Mais vous avez fait remonter sa manifestation, je veux dire, non pas sa conceptualisation, mais sa manifestation avec Brüning dans les...
Von Papen.
Von
c'est
Papen.
Le gouvernement Papen le 1er juin 1932.
D'accord. Est-ce que, moi je serais tenté de faire remonter ça au tout début de Weimar avec la coalition Noske et la Reichswehr pour écraser cette fameuse République des Conseils de Bavière et ces insurrections révolutionnaires qui menaçaient la fameuse coalition, enfin la dite coalition de Weimar et le... C'est-à-dire ce pacte secret, ce pacte secret entre la Reichswehr et, je crois, le ministre de l'Intérieur SPD Gustav Noske, il me semble, pour, entre guillemets, faites ce qu'il faut pour que la paix revienne et écrasez-moi tout ça.
Je vois ce que vous voulez dire, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que le contexte est différent, les buts sont différents, le message est différent et la sociologie est différente. Ce que j'appelle l'extrême-centre, en m'appuyant sur les travaux d'autres historiens et d'autres... Tous ces concepts-là, libéralisme autoritaire, extrême-centre, sont désormais monnaie courante hein, pour décrire les phénomènes auxquels nous assistons dans notre propre pays, par exemple, ou ailleurs. Ce que j'appelle extrême-centre en l'espèce, c'est vraiment cette sociologie d'élite patrimoniale qui défend des intérêts fiscaux et sociaux parfois vraiment sordides. Hein. La famille Hindenburg défend in fine, en janvier 1933, la défiscalisation du Gutneudeck. Hein. C'est vraiment ça qui est en jeu. Et le gigantesque phénomène de prévarication et de corruption issu de la Osthilfe, qui est un scandale à hurler, et qui bénéficie aux grosses Grundbesitzer, hein, aux grands propriétaires terriens de l'Est de l'Elbe, dont font partie les Hindenburg. D'ailleurs, pour l'anecdote, mais ce n'est pas une anecdote, hein, les seuls bénéficiaires de l'arrivée des nazis au pouvoir, c'est les Hindenburg. On leur fait cadeau de terre et de forêt, on défiscalise tout, et le petit Oscar, qui est un crétin fini, qui a fait une carrière lamentable dans les jupons de papa, se fait bombarder général juste avant de partir à la retraite. Ce qui, pour la pension de retraite, est quand même plus confortable. Bref, c'est vraiment un pacte de corruption, mais alors explicite, hein, c'est grotesque, si vous voulez. Le libéralisme autoritaire, caractéristique de l'extrême-centre, c'est véritablement une sociologie élitaire qui veut défendre des intérêts particuliers, qui n'a que faire du bien commun à l'intérêt général. Services publics, on peut les sacrifier. Le bien de la population, on s'en fiche. On peut mourir aux urgences, comme à Nantes aujourd'hui, c'est pas un problème, ou à La Rochelle. Mais il faut préserver des patrimoines établis, etc. Et aussi une capacité à gouverner qui n'est pas attribuée par le suffrage, mais par la naissance, par le réseau et par la reproduction sociale. C'est couplé cette sociologie-là à un projet politique qui est un une politique de l'offre. C'est-à-dire qu'on rompt avec Brüning. Brüning, c'est la déflation. Hein. C'est une catastrophe. On rompt avec la déflation, on rouvre la dépense publique. Non pas dans une perspective, pardon, je vais y arriver, perspective keynésienne de politique de la demande, c'est-à-dire en donnant de l'argent à ceux qui en ont besoin, mais en donnant de l'argent à ceux qui n'en ont pas besoin, au patronat en gros, le tout couplé à des politiques de dérégulation sociale et fiscale qui vont avantager l'offre. Et parallèlement, pour compléter le tout, une critique radicale de la démocratie qu'on est prêt à jeter par-dessus bord. Tous les projets de Von Papen et de Von Geil étaient automne 32, c'est retour au suffrage censitaire, remise en question sérieuse du suffrage des femmes, parce que les femmes qui votent, c'est quand même bizarre. Non, mais vraiment, hein, c'est ce que font les républicains aux États-Unis.
En France, on ne votait pas encore.
Alors ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est la République de Weimar qui, dès 1919, hein, je cite toujours à mes étudiants ce moment magnifique, le 6 février 1919, quand le président Ebert ouvre la constituante, qui commence son discours par « Meine Damen und Herren ». Puisque pour la première fois, les femmes sont électrices et éligibles et élues. Mais donc, le libéralisme autoritaire, l'extrême centre, c'est ça. Ce qui se passe avec Noske, c'est autre chose. C'est un SPD qui n'a pas voulu le pouvoir, qui a été placé là par l'état-major. Hein, die Herren sollen die Suppe auslöffeln, die sie uns eingebrockt haben. Ça, c'est vraiment ces messieurs qui voulaient la démocratie, etc. Ben maintenant, ils vont manger la soupe qu'ils nous ont préparée. Donc, on libéralise le régime, on met des civils au pouvoir. Et plus que des civils, on met le SPD pour que le SPD soit noyé dans la défaite. Ensuite, on met le SPD au pouvoir également pour contenir le mouvement de révolution qui est en train de se développer en Allemagne. Et ça aboutit au pacte Ebert-Groener du 10 novembre, pacte téléphonique, où Groener, nouveau commandant de l'armée, dit « Écoutez, moi je me mets à votre service, vous êtes le chancelier, mais on est d'accord que c'est pour casser du communiste. » Bien sûr, dit Ebert, « Ich hasse die Revolution wie die Sünde. » Je hais la révolution comme le péché. Ebert, qui ne voulait pas de proclamation de la République. Lui, il voulait une monarchie constitutionnelle. Max de Bade, chancelier, ça lui allait très bien. Et donc, dans ce contexte-là, où il est missionné pour détruire la révolution, Noske est là pour jouer le Bluthund, hein, comme il a dit lui-même, le chien sanglant. Mais vous n'avez pas d'idée de libéralisme autoritaire. Au contraire, la politique du SPD, elle a été grandiose en termes de création de la démocratie sociale allemande. Les accords du 15 novembre 1918, c'est extraordinaire. Ils ont profité d'un moment où le patronat, de toute façon, était en panique, était prêt à tout signer. Et d'ailleurs, il a tout signé. Représentativité syndicale, comité d'entreprise, journée de 8 heures, augmentation des salaires. On lâche sur tout. Il a profité de ce moment-là pour créer quelque chose d'incroyable. Démocratie sociale. Donc, quand même, bravo le SPD, hein, dans le contexte. Ça, c'est le côté sympathique qui est totalement orthogonal au libéralisme autoritaire. Papen, il veut revenir là-dessus, il veut annuler tout ça. Hitler, il dit au patron, moi je vais annuler tout ça. Et il le fait d'ailleurs. C'est la revanche de 1918 hein, pour les patrons, hein, 33. Donc on n'est pas du tout dans ce contexte de libéralisme autoritaire.
Vous n'êtes pas trop fatigué, on peut encore prendre une ou deux questions. Alors, j'aimerais bien donner, on a donné le droit de vote aux femmes, mais il n'y a pas de femmes qui, je ne vois pas de femmes, vous n'avez pas de questions ? Non, ça non, je ne suis pas dans la jeunesse, mais si, là, madame en rouge.
Bonjour, Valérie, je suis enseignante. Merci d'allier histoire et respiration au moins. Ma question, c'est actuellement l'environnement de guerre, nous sommes en guerre, réarmement démographique, Ukraine, Russie, j'en passe et j'en passe, dans quelque chose qui s'assimile à une stratégie du choc où on n'a jamais le temps de réfléchir à rien, est-ce qu'il y avait le même environnement extérieur à l'Allemagne à l'époque, en dehors du fait qu'ils étaient opposés au bolchevisme et qui pouvaient servir leurs propres intérêts ?
Alors la guerre, non, puisque d'ailleurs toute la politique des nazis, quand ils seront en place, hein, au pouvoir, à partir de janvier 1933, c'est de dire Hitler der Friedenskanzler, chancelier de la paix. Le grand discours du 17 mai 1933 au Reichstag, c'est la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Tout simplement, pour une raison simple, c'est que l'Allemagne n'a pas les moyens de rien faire. Enfin, je veux dire, c'est une catastrophe. L'armée n'a rien à ce moment-là. Hein. Pour le coup, c'est les nazis qui ont tout fait en termes d'équipement. Et donc, il s'agit de gagner du temps, de capitaliser sur le passé d'Hitler qui dit, voilà, je suis un vétéran des tranchées, j'ai vécu l'horreur, plus jamais ça, blablabla. Jusqu'en 1939, hein, il y a un projet d'une rencontre sur le pont de Kehl entre Édouard Daladier et Adolf Hitler.
Oui, il y avait même une espèce de camp de paix à Verdun, non ?
Oui, oui, bien sûr. Ça, il y a eu ça pendant toutes les années 30. Hein. Les nazis ont beaucoup joué sur la thématique de la paix. Et jusqu'à l'été 1939, il y a eu l'idée d'une... scénariser une rencontre au milieu du pont de Kehl entre Édouard Daladier, président du Conseil français, et Adolf Hitler, avec le jet d'une gerbe dans le Rhin de ces deux anciens combattants qui, se serrant la main, font la paix pour toujours. Donc la guerre, non. Par contre, alors là, le réarmement démographique, si. D'ailleurs, l'expression... Bon, bref.
Il fallait que ce soit une femme qui la pose.
Non, mais je suis pantois, hein, médusé par la stupidité des proférateurs de ce genre de choses, qui évacuent complètement d'ailleurs les conditions sociales qui font qu'on n'a pas envie d'avoir des gosses. C'est-à-dire, dans un cadre néolibéral, destruction généralisée des services publics et de fascisation rampante, allez-y. Hein. Mais ça, apparemment, ça lui échappe. Hein, donc, bon. Cette idée-là, elle est très présente en Allemagne à l'époque parce que, premièrement, l'Allemagne a connu une très forte transition, explosion démographique en réalité avant 14. Taux de croissance de 67% de la population entre 71 et 14. Fin de la transition démographique pendant la Grande Guerre. Plus 2 500 000 morts de la Grande Guerre. Le tout réinterprété à la sauce sociale darwiniste qui consiste à dire la guerre, c'est non seulement la perte quantitative, mais aussi qualitative. C'est-à-dire que ce sont les meilleurs qui se portent au combat, ce sont les meilleurs qui meurent. Résultat, la guerre est contre-sélective et il ne reste que les ratés, les tarés, les médiocres. Et ça, ça ne va pas. Donc il y a une volonté proactive, comment dire aujourd'hui, d'eugénisme forcené qui consiste non seulement à réarmer la démographie d'un point de vue quantitatif, mais aussi qualitatif, avec une angoisse de l'extinction biologique allemande d'un point de vue à la fois du nombre et du point de vue de la qualité.
Allez, monsieur.
Pardon, excusez-moi, je précise en codicille, l'autre point saillant de comparaison, c'est le rejet du droit international. Trump, Attal. Ça n'existe plus, le droit international, c'est une forfanterie, c'est une imposture. Au nom de principes universels, en fait, on défend des intérêts particuliers des puissances. Et vous avez cette condamnation de la trilogie, ça c'est Carl Schmitt qui l'a une fois de plus admirablement résumé, Genf, Weimar, Versailles. Genève, Weimar, Versailles, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est la perte de souveraineté du Volkstum et de la race allemande au profit d'une illusion judéo-libérale ou judéo-bolchévique d'universalisme qui n'existe pas puisqu'il n'y a pas d'universalité du genre humain, il n'y a pas d'universalité de la raison, il n'y a pas d'espèce humaine, il n'y a que des races polygénistes qui sont en lutte entre elles pour le biotope comme des espèces animales le sont. Voilà.
Alors, une dernière question, monsieur. Vous avez un micro ?
Oui, donc ma question est la suivante. En fait, c'est une remarque. En fait, vous avez parlé de convergence entre l'extrême centre et l'extrême droite, et on le voit aussi, surtout pour moi, qui m'intéresse à la géopolitique depuis que je suis enfant, dans la vision du monde. En fait, cette idée d'axe Europe, États-Unis, Israël face à l'islam, face au monde musulman. Et d'ailleurs, le discours ambiant aujourd'hui n'est pas du tout anti-juif, mais anti-musulman. Et une remarque aussi par rapport aux militants, aux malheureux militants qui a été tué par les Antifa, c'est que vous savez qu'il participait à une manifestation contre Rima Hassan, c'est-à-dire contre la Palestine. Alors ça peut expliquer pourquoi l'Assemblée nationale lui rend hommage.
Oui, alors, je pense que l'Assemblée nationale les rend moches aussi parce que ces gens-là sont perdus. Hein. Ils ont perdu le sens commun et les repères. Hein. Bon. Encore une fois, à la demande d'une extrême droite issue de la milice et de la Waffen-SS, on fait ça pour un militant néofasciste. J'avoue que je suis un petit peu médusé. Pour ce que vous pointez, monsieur, ça soulève une question alors, très contemporaine qui est celle du philosémitisme supposé de la droite et de l'extrême droite. Alors moi, je suis très ému quand je vois ça, parce que ça ne tient pas cinq minutes. Hein. Il suffit de regarder même pas les bas-fonds des réseaux sociaux d'extrême droite, mais tout simplement leurs candidats aux élections législatives la dernière fois pour voir que l'antisémitisme est bien présent. Madame Caroline Parmentier, ancienne rédactrice en chef de Présent ou de Minute ou de Rivarol, enfin, publication pétainiste, et la plus proche conseillère, la meilleure amie de Marine Le Pen, députée à l'Assemblée nationale. Donc tout ça ne tient pas. Et en réalité, quand M. Bardella va faire des ablutions à Yad Vashem, c'est une extrême droite qui parle à une extrême droite. Voilà. C'est une internationale. C'est ce que les fascistes même, contemporains, appellent l'interfaf. Hein, je cite l'interfaf. C'est l'international fasciste. Ça remonte assez loin dans l'histoire de l'extrême droite française. Ça remonte en réalité à Lucien Rebatté, nazi français, auteur des Décombres en 1942, qui était un plumitif régulier de Rivarol, publication post-nazi et philo-pétainiste. Et en 1967, au moment de la guerre des Six Jours, Lucien Rebatté écrit un article en disant « Écoutez, je vais vous surprendre. Hein. Moi-même, ça me surprend, mais j'aime les Juifs. » Voilà. Pourquoi ? Parce qu'ils mènent le combat de la civilisation blanche contre les Arabes, etc. etc. Il n'y a que ça qui l'intéresse. C'est-à-dire le fait de massacrer des Arabes. Et ça, c'est bien. Pour peu qu'ils soient là-bas, qu'ils ne soient pas ici, hein, les Juifs, mais finalement, je les aime bien. Et il le dit, moi, ça m'aurait surpris dans les années 30 qu'on me le dise. Et par ailleurs, il choque son lectorat pétainiste, qui n'est pas précisément philosémite. Donc ça ne tient pas une seconde. Quant à l'extrême droite américaine qui soutient le gouvernement d'extrême droite de M. Netanyahou, il faut voir sur quoi ça repose. Sur des prophéties évangéliques des 17e, 18e, 19e siècle qui prévoient la disparition des Juifs. C'est ça l'idée. C'est qu'il faut s'allier avec un Israël puissant, une communauté juive puissante, pour mener la bataille finale du bien contre le mal. Suite à quoi les Juifs reconnaîtront le Christ et donc se convertiront, donc disparaîtront en tant que Juifs, ou alors seront massacrés, avec, disent les prophéties, du sang jusqu'aux morts des chevaux, ce qui, vous en conviendrez, fait beaucoup de sang. Voilà le philosémitisme de l'extrême droite. À bon entendeur, salut. Hein, parce que moi, un Fiers Klarsfeld qui réclame des rafles, je demande à voir pour la suite.
Alors, on va probablement prendre une toute dernière question. Je regarde encore si je vois une femme, mais un jeune là-bas. Voilà. Je suis un peu sélective, pardon.
Bonjour à tous, merci
oui,
beaucoup.
Oui, c'est le wokisme, c'est terrible.
Vive la diversité, l'inclusion. En fait, ma question, c'est par rapport aux données statistiques électorales que vous nous avez détaillées par rapport au premier semestre 1933. En fait, vu que, on va dire, les forces sympathisant pro-nazis dominaient le champ, 30% le champ politico-médiatique en Allemagne, sur quel levier, en dehors du patronat comprador même, et en dehors de la propagande, les nazis ont réussi à consolider leur pouvoir? Est-ce que c'est que par la terreur? Est-ce que c'est par la propagande? Est-ce que c'est par de la force économique? Comment, par exemple, sommes-nous allés de 1933 avec un faible éventail de sympathisants à, on va dire, 1938, l'Anschluss qui a été acclamé par une majorité d'Allemands? Voilà, comment expliquer cette transition? Merci à vous et désolé.
Et d'Autrichiens. Alors là, c'est une question magnifique à poser à Götzali pour une prochaine...
C'est la transition, là.
Non, mais vraiment, parce que alors, lui pourra répondre. Alors, les dynamiques qui se mettent en place à partir de l'été 1934, je ne parle pas des 33, mais bien les 34, relève d'une toute autre série d'explications historiques. Moi, je me concentre sur 33 en temps réel. C'est-à-dire que je ne fais pas de téléologie, je ne vise pas l'explication finaliste, je regarde concrètement, je répète souvent à mes étudiants que faire de l'histoire, c'est rendre leur avenir aux morts. C'est-à-dire rouvrir le champ des possibles, sans savoir ce qui s'est passé par la suite. Et en 33, les nazis, ça ne passe pas. Alors, ça passe de mieux en mieux, parce que vous avez évidemment les rallyes de la 25e heure, les opportunistes sordides, les minables, cloportes, qui vont vite courir, acheter le Parteibuch pour faire partie de la séquence. Mais les données, à la fois qualitatives et quantitatives, dont on dispose en tant qu'historien, montrent que les Allemands ne voulaient pas de ça à ce moment-là. Alors, ce qui se passe à partir du 30 janvier 1933, c'est que vous avez deux acteurs majeurs au plus haut niveau nazi. C'est Göring, qui est ministre en portefeuille au niveau du Reich, mais qui est Reichskommissar für das Innere, donc commissaire du Reich pour l'intérieur en Prusse, donc chef de la police prussienne. Et alors là, c'est tout autre chose. Hein. Je vous l'ai dit, police, prérogative des Länder. La plus puissante force de police en Allemagne, c'est la police prussienne. 90 000 hommes. Plus de la moitié des policiers, de tous les policiers allemands. Et lui, il va faire le boulot, pour le coup. Göring est décisif dans les premiers mois de 1933. Il faut se le rappeler et faire de l'histoire, là encore, en temps réel, parce que nous, l'image de Göring, nous avons, c'est le satrape, morphinomane, l'obèse jouisseur, voleur de tableaux, et un peu baroque, avec ses 8 uniformes par jour et ses breloques pendantes. Ça, c'est le Göring de 37-38. En 33, Göring a un rôle absolument capital pour précisément purger l'administration, achever de nazifier la police, ensauvager les forces de l'ordre, jouer au petit papon en réalité, hein, dire à ses hommes allez-y, tirez, je vous couvre. Il fait du papon avant l'heure. L'autre acteur décisif, c'est quelqu'un qui n'est pas ministre le 30 janvier 1933 et qui le devient le 13 mars. C'est Joseph Goebbels. Et pour ça, il y a une source vraiment intéressante qui sont les mémoires de von Papen, publiées en 1952 en anglais et publiées en allemand rapidement sous le titre Der Wahrheit eine Gasse. En anglais, c'est Memoirs. Papen, qui fait partie du gouvernement, il est vice-chancelier, hein, raconte les conseils des ministres. Il dit que très rapidement, Hitler a pris l'ascendant sur les ministres et que, plus précisément, il avait peur de Göring, Papen. Il avait une peur physique de Göring. Göring, il est gros, il est costaud, il est musclé, il est apoplectique en permanence. Si vous le contredites, il vous insulte. Et il raconte ce moment où il contredit Göring au Conseil des ministres. Göring fait mine de se jeter à travers la table pour l'attraper au collet. Et à partir de ce moment-là, Papen n'a plus jamais contredit Hermann Göring. Il le dit. Hein. Le deuxième qui lui fait peur, c'est Goebbels. Non pas pour des raisons de physique, 1m12 et 22 kilos tout mouillé, mais intellectuellement, Papen, qui est la vanité fait homme, dit écoutez, personne ne fait le poids face à Goebbels, et nous tous réunis, nous ne faisons pas le poids face à Goebbels. Donc on ne le contredit jamais, parce que sinon on se fait détruire. Ces deux-là ont été des facteurs majeurs dans leur radicalité, dans leur ambition, dans leur voracité de pouvoir, de prérogatives. Goebbels, il doit se construire un ministère qui n'existe pas. Il les tue tous un par un pour créer son portefeuille, son domaine de compétences, sa haute fonction publique, son budget. Son journal est très révélateur. Hein. Il passe son temps en querelle de compétences. Donc oui, il y a eu la violence, une violence extrême, SA police. Göring, parmi d'autres mesures, recrute le 17 février 1933 50 000 policiers auxiliaires dans la SA et la SS. Vous allez des types en chemise brune, en chemise noire, avec un brassard blanc Hilfspolizei, il y a un tampon du Polizeipräsidium qui vous donne, vous, militants, vous, miliciens, des pouvoirs d'arrêter, de contrôler les papiers, de faire des perquisitions, etc. Ça, c'est Göring. Et quant à Goebbels, je ne vous fais pas un dessin non plus sur la vista de ce type-là. Göring et Goebbels ont éteint l'espace cognitif allemand hein, en interdisant toute expression dissidente. Mais ça commence dès le 31 janvier 1933, avec l'interdiction des premiers journaux sociodémocrates. Vorwärts interdit pendant 15 jours. Presseverbot. La campagne électorale de mars 1933 n'a jamais eu lieu. Hein.
Alors, je vais vous remercier. Je ne pensais pas que ce cycle allait s'ouvrir si bien. Bravo. Vos livres sont en vente là, non ? Votre livre est en vente là ou pas ? Je l'annonce. Là, sur la table. Et pour ceux qui n'ont pas encore lu, ils peuvent acheter le livre à l'entrée, si j'ai bien compris. Et comme petit mot de la fin, vous avez dit vous redonner un avenir aux morts. Je pense que vous nous avez aussi, à nous vivants, redonné un avenir. Merci beaucoup. Merci.